Bonjour. Beaucoup des questions qui ont été soulevées hier vont trouver aujourd'hui des réponses, je l'espère. Et ça, vraiment, on n'entend pas. Ça va aller. Je disais que beaucoup de questions qui ont été posées hier, formulées, esquisses de développement, vont trouver aujourd'hui d'autres développements et peut-être des réponses. Mais vous savez, le plus important, c'est la question, c'est pas la réponse. Le plus difficile, en tout cas. J'ai une barbe imaginaire qui empêche ma voix d'aller jusqu'au micro. Et c'est pour moi un très grand plaisir de vous présenter pour cette première partie de la matinée Jean-Pierre Biéron et Régine Leitater. Nous avons le premier exposé était donc par Jean-Pierre et Biéron.
Jean-Philippe.
Qui est philosophe, doyen de la faculté de philosophie de l'université Lyon 3, Jean Moulin, travaille sur la créativité psychique dans une relecture de Gaston Bachelard, Paul Ricoeur et Henri Maldini.
Vous avez un portable?
J'ai un portable, mais il est éteint.
Non, il faut mettre le portable sur mode avion.
Il est éteint.
Pour tout le monde, il faut l'annoncer.
Alors, ça va un peu mieux?
Il faut l'annoncer à tout le monde.
S'il vous plaît, si vous pouvez éteindre vos portables ou à défaut les mettre en mode avion. La relecture de Gaston Bachelard, de Paul Ricoeur et Henri Maldini. Il a publié Le climat familial, une poétique de la famille et où va la famille. C'est pas encore résolu.
C'est quelque chose qui met à fond sous le vôtre.
Le mien, il est éteint.
Non, mais le boîtier.
Il est ici.
J'ai continué. Le titre de l'exposé de Jean-Philippe Biéron, c'est « Pourquoi les familles font des histoires ?» Je pense que j'ai donné la tonalité à votre titre qui convient. Si vous, non, vous voulez répéter, vous les, parce que ça peut, c'est d'après la tonalité que ça, veut, ça reste une question très ouverte. On vous attend avec intérêt. Allez-y.
Oui, merci.
Bon. Donc merci de votre accueil, cette présentation, puis de cette hospitalité matinale. Enfin, matinale pour moi, parce que j'ai encore un petit peu de décalage horaire, donc il est 3h du matin pour moi, donc je suis un petit peu dans les nuages, donc c'est très bien pour traiter cette question. Donc, pourquoi les familles font-elles des histoires? Finalement, c'est très bien que Alberto ait mis un peu d'humour dans la façon de poser la question, parce que c'est comme ça peut-être que je pourrais résumer mon intervention. Avant même de l'avoir faite, nos analyses en fait de la famille sont souvent centrées sur sa dimension tragique, et donc quand on entend faire les histoires, on les entend en fait dans ce qu'elles peuvent avoir à la fois de violent, de traumatisant et d'écrasant, de laminant pour les identités. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'expression elle-même faire des histoires, et là cette ambiguïté, elle est capable de mettre du jeu, et d'une certaine façon comment nous pourrions avoir avantage à pluraliser les histoires de famille en montrant que, outre le tragique, bien, l'épique d'un côté et le comique de l'autre ont des vertus, en fait, pour penser ce qu'on pourrait appeler la réversibilité eu égard à ce qui peut parfois faire trauma dans nos histoires. Donc ça, c'est, globalement, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc je commence donc à partir de du texte que j'ai écrit dans l'argumentaire en fait qui nous a été proposé pour ces deux jours. Une expression m'a retenu. On trouve au début de cet argumentaire, hein, il s'agirait donc du point de vue de la clinique de questionner les effets en termes de souffrance des événements bruts non transformés, qui précisément appellent, comment dire, peut-être à faire histoire. Alors je me suis demandé quels événements bruts non transformés. Peut-être la première, celle de qu'est-ce que sont que nos affiliations, les hasards de naissance, les adoptions, les fécondations in vitro, les violences, les décès, les déménagements, enfin, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais je voudrais, en fait, vous proposer et faire l'hypothèse que l'idée d'histoire, quand on parle d'histoire de famille, transforme la brutalité de l'événement ou le caractère brut de l'événement de l'appartenance à un lignage en la symbolisant, la médiatisant par les récits, les attitudes corporelles, les célébrations et les festivités, bref, ce qui fait la chair du familial. Mais au-delà, et donc c'est ça que je voudrais essayer de faire entendre, c'est qu'au-delà de la pathologie et des souffrances qui sont liées aux histoires de famille, et qui voient les familles ne pas toujours réussir à faire famille, hein, drôle d'expression que cette expression de faire famille, hein, et qui vient discuter... l'idée que précisément on pourrait se passer de l'économie d'avoir à la faire, hein. Au-delà donc de la pathologie, il me semble au fond que si on ne néglige pas effectivement qu'il y a de la souffrance, du mal aimé, de l'humilié, du rejeté, du méprisé, il me semble donc que le défi du familial est là, passer de l'événement brut à l'histoire par les médiations de la culture familiale. Mais il ne s'agit pas, me semble-t-il, de nier, de suspendre ou de recouvrir la dimension d'événements qui inaugure et ouvre un monde dans ce que l'on nomme le cours ordinaire des choses, parce que précisément, une famille, c'est un événement brut, continué, parce qu'elle engage, des existants. Donc précisément, donc, si les familles font des histoires, c'est parce qu'elles vivent et s'inaugurent à partir des existences qui se déploient comme telles, dans l'imprévisible événement qu'elles ouvrent et qu'elles accueillent. Bref, donc, il y a une brutalité. Mais avant la brutalité, il faut entendre non pas nécessairement sa violence seule, qui en fait une fracture, mais aussi son caractère brut, qui est événement inattendu dans le familial et qui relève de la furie de l'ouverture, pour parler comme Henri Maldinet. On y vit le hasard d'une appartenance à un lignage et avec lui de tout ce qu'il véhicule et charrie comme mémoire, récit explicite ou tu, valorisation et attente, etc. Parler donc de cette dimension brute suppose donc de ne pas confondre l'événement originaire avec la nouveauté originale et parfois tragique qui nous advient. Puisqu'il faut, pour chacun, pour chacune, transformer ce hasard en destin, c'est-à-dire en faire un événement inaugural. Impossible de le faire sans y consentir, plus ou moins facilement, plus ou moins longuement. Pour cela, précisément, il faudra faire des histoires. Il faudrait alors demander si faire des histoires, ce travail donc qui suppose qu'il y a aussi dans nos relations familiales une part de tragique, faisant que nos rêves de communion se heurtent à l'épreuve des distorsions affectives et communicationnelles, hein, la hantise du lien difficile, hein, au cœur du désir de communion. Donc il faudrait demander si cela ne se heurte pas avec une manière de nier ce tragique en en faisant un obstacle extérieur, et non interne au lien. Et c'est ici, me semble-t-il, que le concept d'histoire est intéressant pour venir discuter d'autres concepts, à savoir d'un côté le concept de résilience et de l'autre celui de roman, au sens en fait du roman familial. Donc, est-ce que donc dans faire des histoires, les familles ne manifestent pas une forme de consistance du lien, disant qu'en famille, on ne fait pas quelque chose du mal, hein, on ne fait pas quelque chose du mal, ça c'est la résilience, hein, mais on fait malgré le mal, hein, qui taraude les liens dans le non-amour, l'injustice, le mépris. Donc je voudrais d'abord donc rapidement essayer de distinguer justement entre résilience, roman familial et histoire. En préférant parler donc d'histoire de famille plutôt que de roman familial et résilience, je voudrais faire un pas de côté à l'égard de ces concepts qui vous sont bien plus familiers qu'à moi, mais qui questionne effectivement ce que c'est qu'une reconstruction narrative. Parler d'histoire de famille n'a pas la technicité du concept de roman familial ni celui résilience. Je crois qu'il permet de prendre ses distances avec le concept de résilience d'abord, qui est aujourd'hui une autre façon de tenter de comprendre et produire une intelligence sur ce problème de l'histoire et de son intotalisable ouverture. Mais ce qu'il a de gênant, à mes yeux en tout cas, ce terme de résilience, c'est que, sous-tendu par des approches comportementalistes, le vécu affectif d'un trauma y est pensé comme la partie d'un tout signifiant, extérieur à l'histoire, puisqu'il s'agit d'en faire quelque chose. Alors que le vécu affectif n'est pas la partie d'un tout, mais le moment signifiant, celui d'un existant qui ouvre un monde et poursuit une histoire. De même, ce qu'il y a de gênant avec le concept de roman familial, c'est qu'il convoque finalement une dimension de tragique, figée, voire fixée. Et finalement, ce que je voudrais discuter, en tout cas c'est une des questions que je me suis posée en préparant cette intervention, c'est comment finalement la lecture freudienne de l'histoire familiale, hein, de l'insociable sociabilité familiale, à partir du seul concept tragique, je ne nie pas son importance, mais en tout cas valorisant la dimension du tragique, et peut-être moins l'épique et le comique, hein, eh bien, est-ce que ce concept, finalement, de tragique n'influence pas la compréhension de l'existence familiale en la plaçant précisément sous une figure de l'irréversible ? Et cette question est importante précisément si l'on veut interroger comment le thérapeutique, à sa manière, pense, accompagne, tente en tous les cas d'accompagner une forme de réversibilité. Bref, donc parler donc d'histoire de famille, donc c'est prendre ses distances avec une lecture peut-être un peu trop vite habitée par le souci d'y entendre une symptomatique, le récit ou l'impossible récit comme symptôme ou symbolisation, hein, avant donc de faire résonner la créativité interpsychique qui se mobilise, qui s'engage dans le familial. L'avantage donc de cette idée d'histoire, en tout cas de ce concept d'histoire, c'est qu'il permet d'articuler ensemble d'abord plusieurs types de récits engagés, déployés dans le familial. Des récits historiques, une forme de mémoire officielle, dans la généalogie, mais qui peut être aussi l'objet, toutes les analyses de Ricoeur, d'une mémoire manipulée, d'une mémoire tronquée, d'une mémoire occultée, dans le cadre donc de ce qu'on appelle les secrets de famille, bref, une mémoire malheureuse, mais il est aussi une mémoire heureuse. Donc ce concept d'histoire permet d'articuler donc des récits historiques, des récits de fiction, dont la littérature est le concentré, dans l'exploration des modalités possibles du lien sur le mode de l'imagination. C'est à sa manière ce qu'a pu un peu faire, enfin ce qu'a fait hier Nancy Houston, mais je m'étais dit ça aurait été amusant de voir, enfin je pensais au travail de Shakespeare, mais on pourrait le faire avec toute la littérature, c'est comment on fait la littérature, ne cesse d'explorer sur le mode épique, tragique et comique, précisément les modalités fictionnelles d'exploration en fait des possibles liens. Bref, donc, le concept d'histoire articule des récits historiques, des récits de fiction, mais aussi des récits d'action, dans et par lesquels une histoire, des histoires, se font en articulant des choix tout au long des jours et dans la transmission entre générations, ce que parfois on appelle des obstinations durables. Donc, toute famille, donc, de ce point de vue, peut être pensée justement comme une manière de faire des histoires dans le temps. Et donc, de ce point de vue aussi, j'ose le dire, en tout cas comme ça, qu'une famille est une réalité traditionnelle. J'ose le dire parce que ce mot « tradition », on le sait, est extrêmement piégeant et inquiétant, mais je voudrais le prendre en son sens étymologique, du « tradere » latin, qui signifie « traverser le temps ». Et donc, avant d'être, effectivement, avant le caractère normatif, si vous voulez, attaché à l'idée de tradition, la famille de toujours pour toujours, et pour tous les jours. Avant donc ce concept de tradition, au sens normatif, l'idée donc du tradéré rappelle effectivement que toute histoire de famille articule dans la synchronie et dans la diachronie, donc des histoires, c'est-à-dire par conséquent organise une modalité du temps traversé ensemble. Hein, une modalité du temps traversé ensemble. Et en ce sens-là, effectivement, elle est une réalité traditionnelle qui peut être rattrapée par le souci de contention de cette traversée dans le langage autoritaire des traditions. Et c'est ici que se mélange alors justement la dimension, si vous voulez, substantialisante de la famille qui voudrait s'épargner le difficile de l'histoire et précisément cette dimension en fait de traversée. Ce qui rend bien compte de cette idée, me semble-t-il, c'est une idée en fait qu'on trouve, par exemple, dans les analyses du dernier Paul Ricoeur dans son livre Parcours de la reconnaissance, dans lequel celui-ci, pour rendre compte en fond de ce que c'est que ce concept d'identité narrative qui lui est si cher, rappelle que qu'est-ce que répondre à la question qui suis-je, répondre à la question qui suis-je, c'est toujours se raconter des histoires, au triple sens que j'ai indiqué, de la fiction, de l'histoire au sens de l'historicité et aussi de l'agir. Donc, répondre à la question qui suis-je, c'est raconter des histoires avec ce trouble indiqué, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire se raconter des histoires en apprenant à se reconnaître dans un lignage. C'est-à-dire que c'est répondre à la question qui suis-je, c'est questionner ce que signifie pour nous reconnaître dans un lignage, c'est-à-dire aussi, par conséquent, ne pas perdre de vue qu'il s'agit donc d'un parcours de la reconnaissance travaillé par la hantise de la non-reconnaissance ou des mal-reconnaissances. Ce qui veut dire, par conséquent, que le concept de généalogie est extrêmement important, il est même ici central, parce que finalement ce concept de généalogie, il a une fonction, comment dire, structurale, très bien montrée par Lévi-Strauss d'une certaine façon, c'est-à-dire le positionnement générationnel permet à chacun de se structurer et de se situer logiquement par rapport aux autres, les proches, les loins, les cousins éloignés, la grande-tante, etc. Bon. Bref, il a une fonction structurante, il a une fonction, la fonction généalogique a une fonction de légitimation, un deuxième aspect, elle légitime un statut par le nom, le prénom qu'on porte, ou le prénom qu'on ne porte pas, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, je ne développe pas, on pourra en parler si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'idée ici de la légitimation par le lignage, par l'autorité du lignage et du descendant est capitale, et c'est vrai dans les grandes tragédies shakespeariennes, mais c'est vrai aussi dans les tragédies et les épopées familiales plus ordinaires, entre guillemets. Mais enfin, la généalogie, elle a une troisième fonction, qui est finalement ontologique. C'est comment une généalogie, elle assure ontologiquement, en articulant le temps d'une vie individuelle, avec le grand temps qui tourne d'un côté vers l'infini du généalogique, que ce soit du côté de l'origine ou que ce soit du côté de l'espérance, en tout cas des grandes attentes. Bref, du côté du grand ancêtre, des grandes icônes de l'ancestral, comme dit parfois Ricoeur, et du côté, en fait, des grandes attentes. Bref, la généalogie et les familles articulent donc histoire individuelle avec une histoire sociale et cette histoire sociale avec une histoire cosmique. On peut oser le mot, même si c'est un peu tôt ce matin. Ces histoires donc de famille, dire les familles font des histoires, effectivement impose de préciser un tout petit peu l'ambiguïté délibérée en fait présente dans le titre de mon exposé, puisque effectivement faire des histoires, ça signifie deux choses. Ça signifie à la fois donner assurance et consistance aux identités individuelles, de sorte que se confronter au familial pour chacun et chacune, c'est avoir l'occasion de pouvoir répondre à la question « qui suis-je ?». C'est ce que j'ai déjà un peu dit, c'est la question donc de la narrativité. Bref, il y a cette idée que dans la famille, ou dans une famille, accompagner les identités par la narration, c'est dire finalement que ce qui relate permet de relier. on pourrait le dire comme ça, si vous voulez, c'est la relation par la, relation. C'est la, le lien par le récit. Bon. Avec un problème, enfin c'est une des questions en tout cas qu'il faut poser aux analyses en fait, de la narrativité, avec un problème qui est qu'effectivement, il y a dans la linéarité du récit qui tente de donner une cohérence, une continuité et une mise en sens, parfois une violence, hein, tout simplement parce que on peut vouloir recouvrir dans une belle cohérence qui parfois résiste à la linéarité, et avec aussi le fait que quand on dit linéarité, on est habité par la, toujours par les approches un peu spatialisantes qui voient le passage d'un point A à un point B, alors qu'une histoire ne se décline pas toujours sur ce mode-là, il peut y avoir de la circularité, de la redondance, des temps d'arrêt. Mais en tous les cas, donc, premier sens, la famille donc, fait des histoires en ce sens donc, narratif, et dire cela, c'est dire par conséquent qu'elle ne peut, se faisant faire l'économie donc, du temps, et par conséquent, ne peut pas se reconnaître trop vite, voire ne peut pas se reconnaître dans une conception substantielle de ce que sont les identités familiales. Bref, on peut vouloir essentialiser la famille, je ne sais pas, la famille selon le sang, par exemple, si on admet que le sang, ce n'est pas l'hémoglobine, hein, et c'est bien l'enjeu, le sang, ce n'est pas l'hémoglobine, quand on dit ça. Hein. Bien, au fond, substantialiser, en fait, la famille, c'est, d'une certaine manière, vouloir, comment dire, mettre de côté tout ce qui s'engage, justement, dans le déploiement d'une histoire qui tente d'élucider, précisément, le fond opaque qui nous lie. Mais faire des histoires, deuxième sens, c'est aussi, finalement, une mise en travail qui connaît la lutte, qui connaît la conflictualité. Et cette conflictualité, elle consiste finalement en une seule chose, si l'on peut dire, elle consiste à comment faire en famille pour que la différence puisse être compatible avec la similitude. Comment faire en sorte que la différence soit compatible avec la similitude? Différence, de quelle différence s'agit-il? La différence des âges, la différence des sexes, la différence des désirs. Bon. Et je dirais, la lutte, elle tente précisément, avec cette triple différence, eh bien, de s'y affronter, en tout cas, de s'y discuter. C'est donc dire que dans la famille donc, s'engage la construction, enfin, une symbolisation de la reconnaissance dans le lignage, mais qui, pour pouvoir se faire, se déploie en un parcours qui connaît la lutte. Je voudrais donc maintenant m'arrêter sur cette idée de lutte. Lutte, hein, lutte au sens donc de lutte pour la reconnaissance. Et là, je voudrais un petit moment suivre le travail d'Axel Honneth, un penseur donc de l'école de Francfort, qui a publié ce livre, ce titre, hein, Lutte pour la reconnaissance, donc, dans lequel, en fait, Honneth dit ceci, Honneth le bien nommé, hein, qui, en fait, donc c'est intéressant, je le note en passant, Axel Honneth, donc école de Francfort, disciple d'Habermas, il a lui-même un disciple qui s'appelle Hartmut Rosa, dont vous avez peut-être entendu parler avec son livre Accélération. Et si j'ai le temps de finir là-dessus tout à l'heure, hein, ce qui me semble très intéressant, c'est de questionner, à partir justement du concept d'accélération, ce qu'il en est de la capacité encore, enfin de la capacité psychique à faire encore de l'histoire. Lorsque nous sommes dans des sociétés qui connaissent l'accélération, non seulement intergénérationnelle, mais intrapsychique. Bon, mais peut-être, bon voilà, je n'aurai peut-être pas le temps de le dire, mais je l'aurais dit. Hein. Mais donc Axel Honneth, donc dans ce livre Lutte pour la reconnaissance, montre que la question de la reconnaissance se décline sur trois registres qui me semblent éclairants pour la question du familial. Le registre de l'amour, le registre de la justice et le registre de l'estime sociale. Et donc l'idée, elle est de dire que on peut défricher et déchiffrer la famille elle-même comme une institution sécurisante, structurante du côté de la justice et socialement produisant de l'estime. Et à chaque fois, la famille comme ben, insécurité. Enfin, à chaque fois, c'est trouble. Donc, il faut, donc, je vais rapidement maintenant revenir sur ces trois aspects. La question de l'amour. Les membres d'une famille Bon, je dis membre, hein, j'accepte ces images hein, organiques qui servent à parler le lien. Hein, bon. Donc les membres d'une famille, enfants comme adultes, désirent, veulent être aimés, disons-le de manière un peu banale, sur un mode donc inconditionnel, c'est-à-dire indépendamment de leur performance, de leur réussite et de leurs résultats. De ce point de vue, la famille, elle aussi, connaît des distorsions qui peuvent être terribles. Hein. La famille connaît l'infamie, si on peut oser cette expression. Mais si elle le connaît, si elle connaît l'infamie, elle est aussi un de ces rares espaces-temps où l'inconditionnalité du lien peut être vécue et partagée. Il est possible d'y être et d'y exister pour ce qu'on est, vivant là une forme singulière d'apprivoisement de l'altérité. Ce qui explique effectivement que des enjeux interpsychiques majeurs y soient, déployés, ce qui explique aussi pourquoi la famille est une réalité qui intéresse à ce point le politique. Parce qu'elle est, dans sa dimension pré-politique, dans ce qu'elle tisse du point de vue interpsychique, eh bien, un facteur qui a des conséquences sociales et politiques majeures. Bref, donc si c'est l'espace-temps où peut se vivre une inconditionnalité du lien, on peut s'en réjouir, et je crois que c'est une des joies du familial que de le savoir et que de le vivre. Être aimé, être autorisé à exister dans une forme de lien sécurisant, au sens d'un Winnicott par exemple, sont des éléments donc, qui permettent de faire ici le lien justement entre le paradigme du soin d'un côté et celui de la reconnaissance. Seulement, effectivement, l'exploration de soi, de ses capacités, devant et avec pour les autres, si c'est une opportunité qui assoit une existence, qui la rassure et qui l'assure, hein, dans le déploiement de ses capacités, inversement, on voit combien le refus d'aimer, le mal-amour, le désamour sont ou peuvent être ici destructeurs. Reconnaissance, non-reconnaissance, donc sur le plan de l'amour. Deuxième aspect, la question de la justice. Il est extrêmement important ici d'observer, c'est sans doute aussi une des nouveautés de notre modernité, de voir que les questions de justice, qui pouvaient être essentiellement traitées dans le champ social et politique, sont rentrées à l'intérieur de la domesticité. C'est ici le rôle notamment majeur du droit, du moins dans nos sociétés. La question de la justice, ce qu'elle demande, c'est d'être, la différence avec l'amour, c'est d'être formellement traité sur un mode équivalent ou égal aux autres, en ayant les mêmes droits et accès aux mêmes biens ou aux mêmes services. Les parents comme les enfants savent d'ailleurs, de ce point de vue, combien colère, irritation, indignation s'élèvent rapidement, encourageant de la jalousie et d'autres récriminations, lorsque des accusations injustes, des répartitions inéquitables sont pratiquées et observées dans les familles. Le jeune Jean-Jacques Rousseau on s'en souvient, si on pense le livre 1 des Confessions, sur les malheureuses expériences d'injustice domestique. On renvoie au livre 1 l'histoire de partage et de ruban volé et d'autres choses. Bon. Mais pourquoi certains ont eu leur premier téléphone portable à tel âge et pas tel autre, enfin, je vais pas faire la liste, hein, mais pourquoi dans les héritages, les parents ont donné telle armoire alors que c'est moi qui l'aurais dû, on pourrait continuer comme ça à l'infini. Pourquoi mes enfants ne reçoivent jamais de cadeaux de la part de mes beaux-parents alors que mes parents, etc. Bon, vous voyez tout ça. En ces matières, donc, il s'agit non pas seulement de manque d'amour, mais de petites injustices quotidiennes ou d'arbitrages arbitraires qui ne nous reconnaissent pas pleinement comme responsables ou comme sujets de droit. Et donc, d'une certaine manière, une des grandes nouveautés contemporaines est d'observer qu'il n'y a pas toujours à choisir entre amour et justice, hein, mais qu'au sein des relations aimantes et des relations de soins, s'installent des enjeux de justice. Les questions de justice, l'accès au droit, le problème des droits des enfants, concernant la scolarité, etc., le statut du viol conjugal, il y a un tas d'exemples ici, tout ceci en fait montre qu'effectivement, à l'intérieur en fait, du familial, s'engage aussi, lorsqu'on les analyse du point de vue de la justice, une lutte pour la reconnaissance qui se formule comme une demande d'égalité de traitement. Et donc, ce qui est en jeu, derrière ces inégalités de traitement, c'est de voir comment les pratiques de soins dans le champ familial sont parfois rattrapées par des logiques de la domination, notamment reposant elle-même sur une naturalisation des rôles dans le champ, dans le champ domestique. Je n'ai pas le temps de développer, mais je crois que les analyses en termes de genre, de ce point de vue, sont intéressantes parce que justement leur travail, c'est de montrer que sous la naturalisation en fait, des rôles se cachent souvent en fait, des rapports de domination et d'injustice. J'en fais pas nécessairement une idéologie, mais je crois que c'est utile en tout cas du point de vue de son levier d'analyse. Donc en fait, face à cette deuxième aspect, cette articulation entre la place de la justice à l'intérieur en fait, du familial, hein, qui va au-delà de l'opposition entre des approches progressistes ou conservatrices concernant la question familiale, propose, je crois, un nouveau type de narrativité en racontant des histoires de famille, ou en tout cas invite à raconter des histoires de famille plus complexes, plus nuancées. Bref, probablement qu'un des enjeux contemporains, c'est de compter la famille, au sens donc du compteur, hein, enfin, du compteur, non pas du compteur de gaz, hein, du compteur, voilà. Hein, même si précisément, je crois que nous sommes aussi victimes d'une société où les compteurs ont pris la place des compteurs, hein, ou le comptage a pris la place du compte, si vous voulez. Hein. Mais bref, donc produire en fait donc des comptes, si l'on veut, donc ou en tout cas des récits, non plus à partir de des familles statutaires, de rôles prédéfinis, mais à partir effectivement de ce qu'on appelle parfois éthique de l'authenticité. Je voudrais montrer ça, je n'ai pas le temps de le faire, mais si vous voulez, il faudrait comparer, par exemple, un récit comme Bad Girl, que vous avez entendu parler hier, et les trajets, je ne sais pas, le site de Corneille. Quoi. C'est comment, entre des logiques statutaires et des logiques, comment dire, de la définition de soi à partir du prisme de l'authenticité, le récit change. Quoi. Bon, je ne développe pas. J'ai encore 2 minutes.
Oui, je vous ai dit, je vous avertirai.
Ah oui, vous m'avertirez, d'accord, ok.
Parce que, d'accord. Il est préférable que vous parliez un peu plus lentement parce que vous êtes tellement riche sur ce que vous dites.
D'accord. Que les gens risquent de... Donc vous m'arrêtez, de toute façon, dès que c'est l'heure, hein, ok. Si je fais danser les concepts, c'est bien. C'est ça que vous dites quand je suis très dense. Hein.
Vous êtes dense, il faut prendre le temps de...
Non, je plaisantais.
On danse tout le temps.
On danse tout le temps, très bien. Donc, amour, justice, estime sociale. Ce troisième aspect, on l'a vu et on le voit en fait très très bien dans les débats contemporains autour de ce qui s'est passé, par exemple, concernant l'accès au mariage pour tous. Hein. Mais il n'y a pas besoin de cela, mais ça a permis en tout cas de le faire apparaître au grand jour si on l'avait oublié. Les familles sont aussi des réalités sociales, hein, qui sont travaillées par ce que produit le social, c'est-à-dire des logiques de l'estime comme des logiques du mépris. Ici, donc, la reconnaissance prend une nouvelle figure, puisque les familles et les relations entre familles sont un champ permanent de lutte pour la sollicitation, l'évaluation des capacités et la reconnaissance de ce qui a été accompli. C'est ce qui permet de dire qu'à sa façon, une famille est une petite ou est une école des capacités. À cet endroit, donc, de nouvelles histoires s'engagent, car il s'agit d'être reconnu, non seulement de manière équitable et juste, mais en plus, en valorisant la personnalité et en lui reconnaissant son estime comme le lieu d'une créativité, d'une inventivité relationnelle. Sans doute donc une des conséquences d'une société de l'authenticité, se tient alors là, hein, que les familles sont, puisqu'il s'agit en fait d'y conquérir l'estime en y existant authentiquement, eh bien, les enjeux sont que les familles sont devenues des réalités psychiquement épuisantes. Parce qu'il est fatigant de s'inventer, d'être dans l'authenticité, il est fatigant de voir l'éthique de l'invention de soi prendre le dessus sur le maintien de l'étiquette. Si vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur la distinction entre le site de Corneille et le Bad Girl de Nancy Houston, c'est que l'étiquette, on peut trouver ça très formel et très hypocrite, mais c'est très reposant. Hein. C'est-à-dire qu'avoir une place et savoir quelle est sa place, assignée de l'extérieur, ça repose d'une certaine façon.
Surtout si on a la bonne place.
Surtout si on a la bonne place, effectivement. Bon. Pour le moment, c'est moi qui suis la mauvaise, c'est pour ça que je suis psychiquement effusé. Non, mais j'ai bien compris. Oui, j'ai bien. C'est ça?
Ça va?
Oui, ça va. Oui, très bien.
Les termes modernes.
Oui, et donc, il se manifeste donc, ici une singularité donc, des formes du familial hein, que sommairement on signale lorsque, du point de vue de la psychopathologie, on observe qu'à l'époque contemporaine, les familles produisent, je ne sais pas s'il faut dire produire, engendrent, occasionnent, enfin, ou sont le lieu, de, ou le réceptacle, enfin, vous me direz quel est le mot le plus adapté. Donc bref, qu'elles engendrent, entre guillemets, moins de névrosés, mais davantage de dépressifs. La grande différence d'avec la Vienne 1900 où émerge la psychanalyse freudienne. C'est-à-dire que ce que je veux simplement dire ici, c'est que donc il y a une attente contemporaine de reconnaissance du développement singulier et irremplaçable de la personne qui est fatigante, non seulement parce que les identités sont des identités qu'on dit parfois liquides, mais aussi parce que la conquête de soi devient une tâche permanente. Travailler à être soi-même et à être reconnu de la sorte par les nôtres et par les autres, c'est une tâche interminable. Bon. On pourrait alors, à partir de là, se demander comment, alors, les familles continuent à faire des histoires et peuvent-elles le faire dans nos sociétés pluralistes, sécularisées, tout le portrait habituel, dans les sociétés aussi où le paradigme du marché et de la gestion puisqu'on gère aussi ses affects comme on gère son portefeuille, eh bien, donc comment dans ce contexte, lui-même soutenu par l'impression de d'accélération, eh bien, modifie la façon de faire des histoires. Et là, il y a un certain nombre d'enjeux, en fait, qui sont intéressants à pointer. Je les liste, je ne les développe pas. Premier enjeu, me semble-t-il, c'est comment les familles peuvent-elles demeurer des espaces-temps d'interprétation, donc des cadres interprétatifs qui permettent non seulement de s'y individualiser, mais de s'y individuer. C'est très important à mes yeux à l'heure de la société de marché qui, elle, individualise. Mais ce n'est pas la même chose. C'est une première question. Bref, c'est la question du statut des évaluations fortes ici en jeu. On en parlera peut-être. Deuxième enjeu, il est comment faire en sorte, faut-il d'ailleurs, que dans le long terme, dans la lente et longue vie ordinaire de la suite des jours, eh bien, des obstinations durables puissent s'expliciter dans la famille sans se figer dans des standards comportementaux. C'est une vraie question dans une société d'accélération où l'innovation où, prend le dessus précisément sur la figure de l'ancestral ou plus précisément où dans une société de l'innovation, le passé est envisagé d'abord comme dépassé. Troisième enjeu, il est, me semble-t-il, là aussi, c'est une conséquence de ce qui précède, c'est comment raconter encore et faire des histoires de famille lorsque les espaces-temps domestiques se dilatent ou sont apparemment des espaces-temps. Ce que je veux dire, c'est quel est l'impact bon, il y en a de mieux placés que moi, en fait, pour traiter ces questions-là, donc parmi vous, mais j'ose le dire quand même, mais c'est qu'en est-il de la possibilité de leur relation à l'heure des ubiquités à l'intérieur de l'espace domestique que permettent les réseaux sociaux? Je le dis autrement, si vous voulez, c'est les connexions virtuelles en tout genre ou en tout poil, je ne sais pas comment il faut dire, la connexion, elle est individuelle. La relation, elle est individuante. Bien, comment, à l'intérieur de l'espace, comment dire, domestique, alors que circule le flux des connexions, puisse encore se développer de la relation. C'est une question que je me pose, enfin que je nous pose. La question de la conflictualité, comment penser la conflictualité en dire faire des histoires, c'est dire que peut-être la famille est un espace où on apprivoise l'expérience du conflit, mais où le conflit, il est pensé, comment dire, non pas... Enfin, on sait que c'est dans les familles qu'on se tue le plus, mais et pour de vrai, enfin, c'est pas uniquement pour de rire, mais c'est comment dans le familial se donner sans se sacrifier, comment s'opposer sans se massacrer. Bon. Il y a là deux enjeux, en fait, qui me semblent majeurs. Et puis, bon, je l'avais encore pointé deux, mais je voudrais terminer simplement sur une dernière chose. C'est sur la question des récits. Sur la question des récits. Je disais, en fait, c'est intéressant, en fait, d'observer que le familial, les histoires de famille, on peut le déployer sur le mode du tragique. Les analyses, en fait, freudiennes ont beaucoup mis l'accent là-dessus. Elles peuvent se décliner sur le mode épique. Et donc, la fonction des épopées familiales me semble très, très importante, hein, parce qu'elles sont aussi cette manière d'accompagner le temps traversé ensemble. Mais je voudrais finir sur la dimension du comique. Bon, parce que j'y suis. J'aime ça aussi. En fait, le comique, en fait, on a parfois tendance un petit peu à le mésestimer parce qu'il n'apparaît pas profond, quoi. Mais souvent parce qu'on le confond avec l'hilarité ou avec des éléments, finalement, enfin avec le grotesque, quoi. Je crois que le comique, ou la dimension du comique, bien met du jeu dans les histoires. C'est-à-dire, en fait, il instaure la capacité de ne pas être prisonnier des rôles, des fonctions, des statuts. De telle sorte que ce que permet le comique, c'est une forme de réversibilité, y compris à l'égard parfois de ce qui peut être douloureux et violent, il permet une forme de réversibilité par la grâce de laquelle il est possible de continuer autrement en se déprenant de ce qu'on croyait définitif. Bref, le comique apprivoise aussi les larmes et les joies, hein, en rappelant qu'une histoire de famille engage des existences et pour lesquelles les situations peuvent être réversibles, tout simplement parce qu'une existence n'est pas ce qui se clôt, une existence est toujours ce qui ouvre. Donc le comique, d'une certaine façon, ce n'est peut-être pas le dernier mot du familial, mais c'est peut-être celui qui dit, hein, que les statuts familiaux et les violences au sein de celles-ci, eux, n'ont pas nécessairement le dernier mot. Je vous remercie de votre écoute.
Merci de votre exposé brillant, riche, suggestif, plein des indications cliniques. Donc déjà tout de suite, je vais faire appel à la justice domestique parce qu'il y a des gens qui sont debout et d'autres qui sont assis. S'il y a des places, si vous pouvez vous avancer, vous trouverez des places ici. Et comme ça, je me sentirai plus soulagé par rapport à la justice, la problématique de la justice. Évidemment, c'est très très difficile de commenter tous les aspects de ce que vous avez présenté. C'est vraiment... Et je laisse un peu pour la salle. J'aimerais juste parler du tragique. Vous avez parlé de l'irréversibilité du tragique. Nous les vivons d'une façon dramatique en tant que thérapeute familiaux, parce que plus vous avancez dans un processus, plus les gens changent, évoluent et articulent des nouvelles, sont capables de progrès considérables, tôt ou tard arrive la question tragique, c'est-à-dire la réaction thérapeutique négative, c'est-à-dire la peur d'aller au-delà, de faire mieux que les parents, de faire mieux que le voisin, de faire mieux que les ancêtres. Et ça, c'est une réalité clinique vraiment très très difficile, difficilement détectable, parce qu'elle se déguise, cette réaction thérapeutique négative. Et là, on sent très très bien comment on est dans les tragiques, on ne peut pas faire mieux que nos ancêtres, que nos parents. Et puis, vous avez parlé de beaucoup de questions sur les genres. Vous avez dit, je ne dis pas tout, mais effectivement, c'est une question majeure de la clinique. Les thérapeutes de couple, essentiellement, les thérapeutes des familles, vivent justement la plupart des conflits du couple, ont des racines autour de la définition du genre, des attributions et des prérogatives de l'un et l'autre genre, et que ça crée des confrontations. Encore une fois, là, c'est une indication majeure à notre clinique. Et enfin, je voudrais faire une autre remarque par rapport à la... Vous parlez un peu avec timidité, vous connaissant, et on a un peu de... On a compris que vous êtes vraiment timide par rapport à cette question, quand vous dites réalité et traditionnelle de la famille, pourquoi pas dire que les familles sont conservatrices? Accepterez-vous cette possibilité? Attends, il discute déjà. C'est ça. Alors, parce que pour parler du genre, pour être très rapide, parce que je pense que vous avez très envie de parler encore un tout petit peu du genre, vous avez dit le sang, les mots sang est comme équivalent du filial, pour le dire rapidement. Et là, je voudrais mettre une réserve. Et pourquoi le mot sang? Et finalement, est-ce que la famille, le familial, les êtres humains peuvent être réduits au sang? Ça répond beaucoup de questions. Quand on sait par ailleurs qu'il y a une injustice.
Mein Vater zu sehen, wie ich ihn
sehe. Ah, mein Vater.
C'est notre inconscient, vous voyez. Donc, pas rigoler des médias, de l'envahissement des productions, des ondes qui traversent les familles et qui entrent dans les foyers. Et là, je disais, le sang, c'est une chose qui parle du féminin. Et qui parle du féminin. Vous savez qu'il y a des cultures où le féminin est désigné comme le genre humide et froid, alors que le masculin, il est sec et chaud. Et ceci pour différentes raisons, mais c'est ce sont des cultures d'Afrique surtout. Et évidemment, le sang joue un rôle très important dans la vie des femmes, depuis les règles, l'accouchement, etc., etc., etc. Et moi, je trouve un peu injuste qu'on définisse l'idée du sang comme équivalent du généalogique seulement ou fortement du côté féminin. Merci de votre présence.
Oui.
Injuste et contre.
Oui, enfin, en vous écoutant sur la question du sang, je pensais au livre de Françoise Héritier, masculin féminin, sur l'idée que les femmes ne choisissent pas de faire couler le sang, alors que les hommes, si. Donc, c'est un autre privilège. Mais trop rapide sur la question en fait, du sang. En fait, ce que ça questionne en fait, plus largement, le sang, c'est une des images parmi d'autres, en fait, pour essayer de tenter, justement, par le biais poétique, de rendre compte justement de ce qui nous lie à la fois dans sa dimension ontologique et dans sa dimension historique. Et donc il y aurait un travail à faire, c'est ce que j'avais cherché un petit peu à faire dans le livre justement Le climat familial, c'est de repérer quelles sont les images qui servent à dire le lien. Et effectivement, si vous prenez des images organiques comme le sang, vous ne faites pas la même chose que si vous prenez des images de type minéral. Il y a des images minérales, quand on dit ça plutôt dans les familles aristocratiques, on est de plus ou moins basse extraction. On dit autre chose. Si on prend les métaphores du tissu, autour de la question du lien, justement. Bref, donc il y aurait un travail à faire, sur le fait qu'effectivement, certains types d'images, si elles sont valorisées plutôt que d'autres, c'est que précisément, elles renforcent, ou elles peuvent vouloir renforcer, il y a du prestige de l'organicité, une certaine conception du lien. Et donc, les métaphores organiques, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais par exemple, parce que c'est peut-être la voix du père que j'ai entendue en allemand, les métaphores organiques qui disent, par exemple, de la famille, c'est la cellule de base de la société, type de discours qu'on trouve chez les nationaux-socialistes, ils ont une tendance à renforcer par la valorisation de l'organicité, l'idée que le lien serait donné avant d'être construit. Voilà. Et c'est pour ça, autrement dit, effectivement, j'ai dit trop vite sur la question du sang, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit.
C'est pour plaisanter.
Oui. Alors, sur la question du conservateur, c'est-à-dire, en fait, on peut dire ça, effectivement, la réalité familiale, bon, et conservatrice, mais c'est tellement piégeant, en fait, de dire ça. On pourrait, je pense à Hannah Arendt qui dit ça, elle dit ça à propos de l'école. Elle dit, en fond, l'école, elle est essentiellement conservatrice, sans que pour autant ça soit du conservatisme. Alors, donc, ce qui est compliqué, c'est comment entendre, comment dire, la dimension de conservation sans tout de suite en faire une boîte de conserve, quoi. Hein. C'est ça le, je crois que c'est ça qui est compliqué. Donc pour ça que j'ai préféré, travailler le concept de tradition parce qu'il permet, parce qu'effectivement quand on dit tradition en fait, il y a le tradere latin. Donc on s'en sort facilement en faisant ça. C'est un peu une pirouette, mais ça n'est pas qu'une pirouette. C'est Ricoeur en fait qui fait cette distinction à la fin de Temps et Récit, où il dit finalement quand on dit tradition, en fait on dit trois choses. Il y a la question d'un existentiel, c'est-à-dire comment il y a une modalité du temps traversé, bon, temps et récit, un récit du temps. Il y a une construction sociale de cet existentiel, bon, la réalité traditionnelle, bon, ce qu'on appelait à un moment donné la famille normale, hein, s'il y en a. Hein. Et puis troisième, enfin, au moins statistique, quand on dit famille normale, hein, c'est ce qu'on voit d'ordinaire, le plus nombreux. Bon. Et puis, troisième sens de la tradition, c'est effectivement son sens normatif. C'est ça qu'il faudrait être. Et donc, quand on dit conservation, ça pose, cette question, elle pourrait se décliner sur ces trois registres, quoi. Sur la confrontation autour du genre, je trouve que les confrontations autour du genre, mais là c'est l'expérience clinique qui devrait prendre le relais de ma propre parole, quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement je crois que parler de confrontation autour en fait des questions du genre, c'est précisément discuter comment on peut avoir une lecture des identités qui soit justement une conception substantielle des identités, alors que ces identités sont des identités en travail. Hein. C'est-à-dire que le mot identité est un mot lui-même en fait qui est piégeant, parce que quand on dit identité, on pense logique, c'est-à-dire principe d'identité, A égale A. C'est-à-dire qu'on pense que quand on dit identité, ça signifie permanence. Non. L'identique n'est pas nécessairement la permanence. Hein. Et précisément l'idée d'identité narrative, c'est ça un peu l'idée de Ricoeur de ce point de vue, c'est de penser autrement qu'en termes de permanence l'identité. C'est la question du bac, quoi. Hein. Suis-je le même en des temps différents, hein. Une question, un beau sujet de bac, mais c'est le bac de la vie, hein, qui sert à traverser la vie, hein, c'est bien compris. parce que je voulais pas vous inviter à la régression. Sur le peur de faire mieux que les parents, il y a un texte de Canguilhem, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, en vous écoutant, je pensais à un texte du philosophe Canguilhem dans Le Normal et Pathologique, en fait, dans lequel il dit peut-être qu'un des plus grands défis, c'est de guérir les patients de la peur d'avoir à guérir.
Voilà.
C'est ça que j'entendais en vous écoutant, c'est-à-dire. Je crois qu'en fait, ce qui est en jeu pour chacun et chacune de nous, de cette façon, c'est effectivement c'est ça l'enjeu de l'existence. C'est exister, c'est enfin s'autoriser dans sa capacité d'ouvrir un monde. C'est la différence entre justement être, quand on dit venir au monde, ça peut vouloir s'entendre venir dans un monde qui par avance a défini pour nous nos rôles, mais l'humain qui vient au monde, c'est celui qui ouvre un monde. Et je crois que le difficile d'exister, et peut-être le tragique de ce point de vue-là, en tous les cas, son tragicomique, je préférerais, je crois qu'il se tient là.
Hein. Merci, c'est très éclairant. Et je passe maintenant la parole à la salle. Qui souhaiterait poser des questions, des commentaires? Pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent intervenir, je vous suggère de parler court. Ici, ils sont là. Ici. Merci, Muriel.
Un très grand merci, Jean-Philippe Pierron, de votre brillant exposé. Je voulais simplement profiter de votre présence pour vous demander si nous pouvions faire une analogie entre ce que Ricoeur, parce que c'est en vous écoutant que ça m'est revenu en mémoire, entre ce que Ricoeur parle de l'intrigue, c'est-à-dire de l'opération de la mise en intrigue, et du travail thérapeutique. Oui. Je vais faire court, parce que sinon après...
Moi, je vais faire court. Oui. 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 Oui, oui, oui. En fait, ce qui est en jeu, il y a plusieurs choses en fait qu'on pourrait dire, mais quand Ricoeur il dit voilà répondre à la question qui suit, j'ai raconté une histoire très vite. En fait, ce qui pointe, c'est le fait que comment dire, notre histoire, elle est toujours enchevêtrée avec d'autres histoires, hein, tout simplement parce que notre situation généalogique fait que nous ne sommes pas dans une succession de générations, mais toujours dans des suites de générations. Et donc, effectivement, qu'est-ce que c'est que la mise en intrigue, à un moment donné? C'est la capacité qu'on a, étant enchevêtré dans des histoires, finalement, de pouvoir, à un moment donné, en être le sujet, et à partir de là, effectivement, produire, comment dire, sa propre narration. C'est-à-dire que c'est tout ce qui se joue autour de ce qu'il appelle la triple mimesis, c'est-à-dire que moi, je trouve que ça serait en soi un travail, hein, que de montrer que cette idée que la mimesis, ça n'est pas, donc c'est aussi en lien avec la question précédente au fond, que la mimesis, donc le rapport en fait de mimesis, c'est pas simplement un rapport copie-modèle, c'est comment je vais imiter en fait ceux qui m'ont précédé, mais que la mimesis, c'est un processus en fait de création qui reconfigure en fait des histoires ou qui reconfigure en fait des récits. Je pense qu'un des enjeux de l'existence, et dont l'espace thérapeutique, ou l'espace-temps thérapeutique et la chambre d'écho, et peut-être aussi de mise au jour de cette façon, c'est précisément ça. C'est comment cette mise en intrigue, elle déchiffre ces histoires dans lesquelles nous sommes enchevêtrés, alors il faut dire parfois empêtrés, et la capacité effectivement d'y produire un lien, enfin, en tout cas d'y engendrer une lecture, enfin, d'en s'en faire l'interprète. C'est-à-dire, je pense qu'une réponse à votre question, c'est de dire finalement que le jeu est un interprète, hein, mais au sens où on le dit d'un pianiste à propos d'une partition. Hein. C'est y faire entendre, comment dire, sa petite musique alors qu'elle est déjà pour une part chiffrée. Hein. Voilà, mais c'est vraiment... Ça mérite, voilà, je crois.
Encore une autre question.
Oui, je vous remercie pour votre intervention. J'avais une question par rapport au statut social. Quand on est une famille, est-ce qu'on se fait des histoires différemment quand on est une famille de notables ou une famille d'ouvriers ou une famille de paysans, par exemple?
Oui. C'est en fait elle est double la question, quoi. C'est-à-dire qu'il y a comment une famille s'interprète dans le contexte sociopolitique au sein duquel elle se déploie, hein, et donc qu'est-ce qu'il en est effectivement des rapports de domination, des formes en fait de mépris de certaines formes d'organisation sociale plutôt que telle autre. Donc il y a ça. Et donc, de ce point de vue, les luttes sociales, elles ont une importance parce qu'elles viennent discuter, ce qui serait considéré, c'est très beau le mot que vous utilisez, en même temps on voit combien il est terrible, hein, ce qu'elles viennent discuter et donc retravailler l'idée de ce que c'est que notable. Hein, ma famille serait notable, et la vôtre, hein, la tienne. Hein, donc il y a vraiment cette question, hein, qui fait qu'effectivement, c'est là qu'on tombe sur les questions de discours traditionnels et de pression en fait sociale sur ce que devrait être la famille et qui définit ce qu'elle devrait être. Donc c'est là qu'on est des enjeux qui sont à la fois psychiques, affectifs et en même temps des enjeux en fait juridico-politiques. Hein. Et puis effectivement, il y a en interne, parce que j'entendais dans votre question, il y a comment on intègre, y compris dans la dimension intra-psychique, des images de ce qu'il conviendrait d'être ou de ce qu'il faudrait être. Hein, et on voit très très bien sur... pour prendre simplement un exemple, hein, l'histoire, de l'adoption, dans nos sociétés en un siècle et demi. Hein, entre l'adoption qu'il ne faut pas dire et celle qui non seulement se dit, mais en plus devient le récit de l'aventure familiale par excellence. Si on pense, enfin par excellence, j'exagère un peu, mais dans le cadre en fait de comment dire, l'adoption internationale, ben, je trouve que c'est assez intéressant de pointer que si on faisait une lecture, comment dire, des catégories socio-professionnelles, hein, en fait, de ceux qui adoptent, hein, et de ce que ça produit comme impact, comment dire, sur la manière de retravailler les représentations sociales, il y aurait une manière de réponse à votre question, mais je n'ai pas vu où est-ce que vous étiez, en fait. Ah, voilà, c'est ça, d'accord, ok.
Merci. 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 Et encore une dernière question. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole.
Une dernière. Quand nous parlons de narration ou de famille, je dois reprendre un terme que tu as utilisé, que c'est la relation intergénérationnelle intrapsychique. Je vais reprendre un concept d'Alberto qui dit que le groupe familial n'est pas un groupe social, mais le groupe familial doit être dans le social. C'est-à-dire que dans la famille, il y a, en relation dans la transmission, la façon de la transmission, et de quelle façon, après, quand nous parlons de narration, nous, beaucoup de fois, nous pouvons être attentifs à la relation entre la transmission trans, la intergénérationnelle, et finalement, le destin intrapsychique de toute la façon que les choses que hier Evelyn Grange a parlé. Je pense que c'est une situation très particulière, très importante pour donner les nuances et pas être en confusion très généralisante.
Oui, oui. Oui, vous dites très bien les choses. Moi, je le redirais autrement, mais je pense que c'est la même idée. C'est-à-dire que, effectivement, dire que la famille n'est pas un groupe social comme les autres parce qu'il est dans le social, pour moi, en fait, ce qui fait le fait que ça n'est pas un groupe social comme les autres, il est autour de ce que c'est que, enfin, autour du fait que, en son sein, se joue la question que signifie pour moi me reconnaître dans un lignage. Et que cet enjeu-là, il est fondamental, hein, parce qu'il est, c'est ce qui singularise, c'est ce qui fait que la famille, c'est pas qu'un groupe d'amis, ou que ça n'est pas qu'une corporation, c'est pas qu'une amicale. D'ailleurs, ça peut être, enfin, bon, c'est bien. Donc cet aspect-là, il est effectivement majeur, hein, pour effectivement, comme vous dites, pour sortir la confusion. Ça, je suis d'accord avec vous, ouais, bien sûr. Ouais. Et de ce point de vue, enfin, moi, ce qui m'a éclairé. Enfin, je vous le dis parce que ça peut aussi être le cas pour vous, si vous le voulez, mais j'ai trouvé assez intéressant un texte d'un... Alors, peut-être parce qu'on est chez Diakonès, non, c'est il y a un texte d'un théologien protestant qui s'appelle Erwan Cuvillier, qui s'appelle « Naissance et enfance de Jésus » et qui fait un travail sur ce que c'est que la généalogie. Et notamment, puisqu'au fond, la question, c'est, imaginons que vous vouliez être fils de Dieu, mais que vous ambitionnez en plus de dire que vous soyez un humain. Bon. Quelle est la meilleure stratégie pour pouvoir devenir un humain? Bon. Eh bien, c'est de trouver une généalogie. Voilà. C'est qui voudrait bien vous inscrire dans une généalogie? C'est le problème d'E.T., c'est pour ça qu'il repart. Hein. Mais, non. Non, mais, non, non, oui, non, non, excusez-moi. Mais en fait... Oui, c'est dimanche. Ah ouais, zut. Donc je finis mon homélie. Et en fait, Erwan Cuvillier dit ceci. Donc il commente, c'est un texte très intéressant qui est la généalogie de Jésus dans Matthieu. Et moi, je vous lire ça parce que ça m'a vraiment intéressé. Puis je pense que c'est très centré sur nos questions d'aujourd'hui. Généalogie de Matthieu. En fait, Matthieu donc annonce généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Bon, bref. Et il annonce 42 générations. Et si vous le comptez, il n'y en a que 41. Donc voilà. Et c'est intéressant. Erreur de scribe ou ouverture
Mais il trouve sa légitimité parce que c'est lui qui est là-haut dans la généalogie, c'est David. Ouais. C'est le roi David. Voilà. Moi, c'est très intéressant. Donc, on a tout eu, mais je vous remercie infiniment. C'était.